Comme tous les vendredis, des chercheurs et acteurs de la culture scientifique se retrouvent dans le club des têtes au carré avec au menu des discussions aujourd'hui. Un robot conçu pour aider les enfants autistes, l'étonnant futur que laissent envisager des innovations en germe dans les laboratoires, des phénomènes célestes remarquables qu'il faut prendre le temps de contempler même à la radio. Et puis à la une de l'actualité scientifique aujourd'hui, du nouveau sur l'apparition de la vie sur Terre. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel. Oui, des travaux américains suggérant que la vie serait apparue très tôt sur notre planète. Quelques 400 millions d'années seulement après sa formation. Une découverte, si elle est confirmée, qui changera définitivement notre façon de voir la Terre primitive. On en parle dans un instant avec deux spécialistes et vos questions sur Twitter.
Oui, pour adresser vos questions à l'ensemble de nos invités ou réagir sur l'un des sujets, rendez-vous sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Emmanuel Fournier.
La Tête au Carré, le club avec Daniel Fievé sur France Inter.
Autour de la table aujourd'hui, Ladislas de Toldi, ingénieur en biotechnologie, Nicolas Carreau, journaliste, auteur de la chronique Futurama dans les Inrecuptibles, et Emmanuel Baudouin, chercheur à l'université Paris-Sud. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. Ladislas de Toldi, vous êtes venu accompagner. Comment s'appelle votre compagnon ici présent sur la table?
Mon petit compagnon s'appelle Leka, c'est un petit robot sphérique pour aider les enfants autistes.
Alors, il ressemble à quoi ce petit
robot? Il ressemble à un ballon de handball, en réalité. C'est un petit robot sphérique qui est capable de se déplacer, de changer de couleur, d'interagir. Il a des yeux, il a des petites oreilles et c'est un petit compagnon de jeu.
Ce robot a été conçu donc pour venir en aide aux enfants autistes. Vous allez nous expliquer de quelle manière dans cette émission. Nicolas Carreau vient de paraître chez Vuibert un recueil des chroniques que vous publiez dans Les Inrecuptibles, dans la rubrique Futurama. Titre de votre ouvrage, L'avenir est pavé de bonnes intentions, 80 ans. Inventions géniales et leurs effets indésirables. On y croise alors des gratte-ciels invisibles, des machines à lire les rêves et même des sabres laser. Vous adorez faire des allers-retours comme ça permanents entre la science et la science-fiction, Nicolas Carreau.
Mais d'ailleurs, le robot qui aide les autistes, je trouve qu'il ressemble au nouveau robot de Star Wars, vous savez, BB-8. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est comment la science-fiction, les cinéastes et les écrivains ont inspiré les scientifiques qui ensuite essayent de concevoir toutes ces merveilles. Et voilà, et moi, effectivement, je suis allé chercher dans les laboratoires, toutes ces inventions en germe, comme vous l'avez très bien dit.
Nous allons donc passer en revue quelques-unes de ces inventions incroyables que vous vous risquez à prédire dans votre livre. Et puis, nous prendrons le temps de contempler les plus beaux phénomènes célestes avec vous, Emmanuel Baudouin. Vous venez de publier 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu dans sa vie aux éditions d'Uno. On ne profite pas assez, selon vous, du spectacle que nous offre la voûte céleste?
Alors, qu'on en profite assez ou pas, l'idée, c'est vraiment de donner l'envie de s'intéresser à ces plus belles merveilles du ciel, de comprendre au moins quelques-unes de leurs facettes, et puis, si possible, de donner l'envie de les contempler de ses propres yeux.
Ah, et alors, rayons verts, tempêtes d'étoiles filantes, éclipses de lune, galaxies, voici quelques-unes des merveilles du ciel que vous nous invitez à contempler et qu'on contemplera avec vous dans la fin de cette émission. Pour adresser vos questions à nos invités ou réagir à l'un de ces sujets, franceinter.fr, rubrique La Tête au Carré ou Twitter avec le mot-clé L'Attaque. À la une de la science aujourd'hui, et si la vie était apparue sur Terre plus tôt que prévu?
La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé.
Alors plongeons donc dans le passé de notre planète. Des traces minuscules de carbone indirectement liées à la vie ont été trouvées dans des roches datant de 4,1 milliards d'années. Une étude assez élégante parue cette semaine dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines et qui suggère que nous ne sommes pas au bout de nos surprises concernant les origines de la vie. Pour en parler, nous recevrons par téléphone Hervé Cottin, astrochimiste, professeur à l'Université Paris-Est, et dans ce studio avec nous Sylvain Bernard, chercheur au CNRS à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Sylvain Bernard, alors ce qu'ont déniché ces chercheurs est minuscule. Hein. Quelques microgrammes à peine de carbone enfermés dans un cristal très ancien. Expliquez-nous comment ils en viennent à prendre ça pour une trace de vie potentielle.
Alors c'est compliqué. Ils ont trouvé des toutes petites inclusions de carbone. Ils ont réussi à montrer que c'était du carbone. Et ces inclusions sont aucun contact avec l'extérieur du cristal. Ils sont piégés dans des petits cristaux de zircon qu'ils ont réussi à dater. Et ils ont daté à 4,1 milliards d'années. Donc c'est parmi les plus vieux zircons de la planète. Et ces inclusions de carbone, ils ont mesuré les signatures isotopiques, c'est-à-dire le nombre, quelque part, de carbone léger et le nombre de carbone lourd dont ils étaient constitués, ces grains. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ces grains étaient appauvris en carbone lourd. C'est-à-dire qu'ils étaient, ils contenaient plus de carbone léger que ce qu'on pourrait s'attendre dans les minéraux, par exemple.
Donc et ce serait ça, du carbone, ça c'est un peu la signature du vivant, le fait qu'il soit un peu différent, ces atomes de carbone.
Alors voilà, justement, la vie sur Terre, on sait qu'elle utilise de façon préférentielle le carbone un peu plus léger, c'est plus facile à utiliser. Et donc, quand on mesure ces signatures, qu'on appelle signatures isotopiques, si elles sont appauvries en carbone lourd, donc enrichies en carbone léger, on conclut généralement que c'est du carbone vivant, ou d'origine vivante, en tout cas.
C'est vraiment comme des sortes de petites capsules temporelles, hein, ces grains de zircon qui ont encapsulé des atomes qui datent de 4,1 milliards d'années, des molécules même, des assemblages d'atomes.
Ouais, c'est des grains. Alors l'idée, c'est que ces grains de carbone, qui sont en fait quasiment du graphite, pourraient être même beaucoup plus vieux que ça. Alors, pas forcément beaucoup plus vieux, mais en tout cas, ils sont piégés dans des grains de zircon qui ont 4,1 milliards d'années, donc c'est un âge minimum, disons. Ouais.
Hervé Cottin, si jamais ce carbone a bien été transformé par une forme de vie végétale, c'est toute la connaissance de la vie sur Terre primitive qui est à revoir au final?
Ça change, à la fois ça change beaucoup de choses, mais ça rentre en fait dans un contexte qui est en train de changer par rapport à ce qu'on connaît de la Terre primitive. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on n'imaginait pas du tout que la vie ait pu apparaître sur la Terre avant 4 milliards d'années, 3,8 milliards d'années environ, parce qu'on pensait que la Terre primitive était une Terre infernale qui était constamment bombardée par des impacts météoritiques géants qui allaient complètement tout dévaster. On les appelait ces impacts stérilisateurs. Et depuis une dizaine d'années, on revisite un petit peu, grâce à la découverte des exoplanètes, à la configuration des autres systèmes autour d'autres étoiles, ça nous a ramené à nous poser des questions sur comment s'est formé le système solaire. Et maintenant, on se dit que la Terre a connu un épisode de bombardement très intense juste au moment de sa formation, parce qu'elle se forme par bombardement, et puis qu'ensuite elle a connu des quelques centaines de millions d'années plutôt paisibles, avec de l'eau à l'état liquide, et avec un nouveau pic de bombardement très intense, mais qui a priori n'était pas stérilisateur autour de 3,8-3,9 milliards d'années.
Ouais, on est en train de revoir tout le scénario là, hein.
Oui,
Axel Villard.
Il y a quand même un mais, Sylvain Bernard, c'est que ce carbone pourrait tout aussi bien n'avoir aucun lien avec le vivant.
Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, la seule information dont il dispose pour nous dire que c'est d'origine biologique, c'est cette signature isotopique dont je vous parlais, donc cette composition en carbone léger et carbone un peu plus lourd. Et en fait, on sait, et il y a déjà eu beaucoup d'études publiées sur le sujet, qu'on peut très bien former des carbones appauvris en isotopes lourds, donc enrichis en isotopes légers, sans faire du tout intervenir le vivant.
Donc une découverte à confirmer. On a des moyens de la confirmer, autre que cette datation
Et alors, c'est compliqué. C'est, faut bien se rendre compte que quand même à l'heure actuelle, si on a une bactérie qui vit et qui meurt, si on la regarde une fois morte, c'est très difficile de prouver qu'elle était vivante. Et donc là, on est en train de parler de roches et de grains de graphite, en tout cas de graphitique, qui ont plus de 4 milliards d'années. Donc c'est assez compliqué. Mais il y a des informations qu'on pourrait aller chercher. Par exemple, on pourrait aller regarder la structure moléculaire très fine, dans le détail, voir de quoi c'est composé exactement. Est-ce que c'est que du carbone ou est-ce qu'il y a d'autres atomes associés et dans quelle proportion et comment ça marche.
Ce sont donc des informations à confirmer, des études à étayer. Mais Hervé Cottin, si on se rend compte qu'effectivement la vie est apparue beaucoup plus tôt que prévu sur la planète Terre et que finalement, dès qu'elle a pu émerger, elle a émergé. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça augmente les probabilités de trouver de la vie ailleurs, de se dire finalement quand elle peut apparaître, eh ben elle ne demande qu'à apparaître la vie finalement.
C'est effectivement ce qu'on aimerait bien savoir. Pour savoir si la vie a pu apparaître ailleurs que sur la Terre, notre élément de référence c'est la vie terrestre. Et donc si effectivement, et je suis d'accord, hein, ça reste à confirmer, c'est très très bien décrit dans l'article, les auteurs sont très prudents, mais si c'est vrai, et c'est un grand si, ça voudrait dire qu'en quelques centaines de millions d'années seulement, sur la Terre, l'association eau à l'état liquide et matière organique, c'est-à-dire des molécules basées sur le carbone, aurait conduit à l'apparition de la vie. Et donc, on sait que, pas très loin de nous, il y a une petite planète qui s'appelle Mars, et on sait que pendant quelques centaines de millions d'années, donc une période assez restreinte, Mars a connu un environnement avec une atmosphère beaucoup très différente de celle qu'il a à l'heure actuelle, et de l'eau qui a coulé de façon stable à sa surface. Donc, si l'équation, dès qu'il y a de l'eau liquide et de la matière carbonée est remplie, la vie apparaît rapidement, ça renforce en fait l'idée que la vie aurait pu apparaître sur Mars, et ça légitime encore plus l'idée d'aller voir sur Mars. Mais voilà, c'est un scénario qui reste à confirmer, il y a beaucoup de choses encore à confirmer, mais c'est très intéressant et c'est très excitant de se dire que peut-être effectivement la vie apparaît assez rapidement.
Ah oui, on se dit que ça peut pulluler finalement dans l'univers, la vie. Axel Villard, une dernière question.
Oui, une dernière question pour Sylvain Bernard. On parle de Mars et de la recherche de la vie sur Mars. Est-ce que c'est encore plus difficile d'aller chercher la vie sur Mars que de chercher dans les vestiges de la Terre ?
Eh ben, en fait, paradoxalement, c'est limite plus facile parce que Mars, c'est une planète qui n'a pas de tectonique des plaques. Et donc qui en fait a des roches très anciennes à sa surface qui sont beaucoup mieux préservées que les roches très anciennes à la surface de la Terre. Et puis c'est une planète où la vie s'est pas développée non plus comme sur Terre, donc il n'y a pas eu de forêt, il n'y a pas eu de remaniement de toutes ces vieilles traces. Et donc potentiellement, si la vie est apparue sur Mars en même temps que sur la Terre, alors on ne sait pas du tout quand ça date, mais il peut y avoir des vestiges qu'on ira identifier plus facilement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer tous nos outils très développés pour aller caractériser cette matière sur notre planète.
La plus grosse difficulté, pardon, c'est d'y aller.
La plus grosse difficulté, effectivement, c'est d'y aller. Mais on arrive à faire des choses avec les rovers en place et les prochains rovers qui seront lancés. Et donc, on peut s'attendre à des surprises.
Merci.
Merci Hervé Cottin et Sylvain Bernard de nous avoir parlé de cette découverte passionnante. Et merci Axel Villard. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une gentille frayeur pour Halloween. Un astéroïde de plus de 400 mètres de diamètre frôlera la Terre dans la nuit du 31 octobre, identifié au début du mois par le Centre d'études de la NASA sur les objets proches de la Terre. Ce petit monstre nommé 2015 TB145 s'approchera à 480 000 km de notre planète, soit environ 1,3 fois la distance Terre-Lune. Les astronomes comptent beaucoup sur les observations de ce week-end pour peaufiner leur méthode d'observation et de suivi par télescope optique, des méthodes qui s'avéreront utiles pour la visite d'un astéroïde plus gros, 800 mètres de diamètre, prévu pour août 2027. La peste frappait-elle déjà à l'âge de bronze ? Une étude vient de montrer que loin de commencer à la fin de l'Antiquité, comme le suggéraient de précédents travaux publiés il y a moins d'un an, la peste aurait infecté des hommes il y a près de 3000 ans. Des chercheurs de l'université de Copenhague ont passé en revue une centaine de squelettes d'individus d'Europe et d'Asie à la recherche de l'ADN de la bactérie responsable de cette maladie. Et ils l'ont identifié chez 7 d'entre eux qui vivaient entre 2800 et 9500 ans avant notre ère. D'après les résultats génétiques, cette peste ancestrale était bien moins dangereuse et moins contagieuse que celle que nous connaissons. Elle aurait acquis peu à peu l'attirail génétique qui lui conférant son extrême virulence. Chez les singes hurleurs d'Amazonie, ceux qui crient le plus fort sont aussi ceux qui produisent le moins de spermatozoïdes. Ce drôle de constat, fait par des biologistes de l'université de Cambridge, trouve une explication évolutive assez simple. Ces deux atouts sont cruciaux pour assurer efficacement une descendance, mais ne sont pas couplés. Ainsi, les singes qui crient fort attirent plus de femelles, augmentant ainsi leur chance de se reproduire. À l'inverse, les singes plus discrets doivent être plus efficaces et maximiser leur chance de féconder les rares femelles qu'ils attirent. Il s'agit du premier indice montrant que chez toutes les espèces, il existe un compromis entre les capacités vocales et la production de sperme, souligne Jacob Dunn, un des principaux auteurs de ces travaux. Et le cri d'un singe hurleur, eh bien ça ressemble à ça. Dans un instant, on découvre un petit robot conçu pour accompagner les enfants autistes. Les invités de ce club des têtes au carré attendent vos questions à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau, de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus, et c'est en le massant que tu me plus le plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus, j'ai pu savoir ton goût. Le goût insignifiant, l'une femme le plus, dont de toute façon je ne verrai le cul. Voici venir mon heure et je n'attends le point de servir de surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. Il arrivait un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin. En guise de merci, j'offrirai en retour un massage des seins, mon dernier amour.
C'était Maz Hunt, Soufris Maracas dans la tête au carré sur France Inter.
Le club des têtes au carré. En partenariat avec TEDx Paris. Sur France Inter.
Un robot pour favoriser l'interaction et la communication avec des enfants autistes. Telle est l'idée de Ladislas de Toldi. Vous êtes ingénieur en biotechnologie de formation. Vous avez créé une entreprise, l'ECA, qui a d'ailleurs donné le nom du petit robot qui est avec vous sur la table. Donc cette entreprise a été créée en 2014 pour développer ce petit robot. Comment vous est venue cette idée ?
C'est une longue histoire. Ça a commencé par une histoire personnelle et familiale. Et ça s'est vraiment développé lors d'un cours de design pendant nos études où notre professeur avait, et a toujours d'ailleurs, un petit garçon autiste. Il nous a expliqué ce que c'était que l'autisme, les besoins, et nous a demandé d'imaginer un jeu qui puisse aider ces enfants-là à communiquer, qui puisse être un outil aussi pour les parents et les éducateurs, pour les accompagner dans la prise en charge. La règle, c'était que le jeu ne devait pas être cher. On n'a pas très bien suivi cette règle.
Pourquoi il est cher, votre robot ?
Il serait un peu plus cher qu'un iPad, mais il est bourré de technologie. Et on s'est trouvé que la technologie pouvait vraiment être une étincelle pour ces enfants-là, une accroche pour leur permettre de grandir, d'apprendre. Et donc, on a développé ce petit robot sphérique qui est facile à prendre en main, qui est stimulant sensoriellement, qui est un vrai compagnon de jeu pour les enfants et un vrai outil pour les parents et les éducateurs.
Oui, qu'est-ce qui vous laisse penser justement que la technologie, la robotique peut être un bon outil pour interagir précisément avec ces enfants avec lesquels on peine à interagir, les autistes ?
Alors, nous, on n'a rien inventé. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite en amont, pas forcément sur notre robot, mais sur d'autres robots, humanoïdes, pas humanoïdes, peu importe, et qui a montré que on ne sait pas très bien pourquoi, mais quand on met un enfant, un robot et un éducateur, l'enfant interagit plus avec l'éducateur au travers du robot que si le robot n'est pas là. Et le robot devient un peu une sorte de canal, de pont d'interaction et de communication et d'interaction sociale entre l'enfant et les gens qui l'entourent. Parce qu'ils sont simples, parce qu'ils ne jugent pas, parce qu'ils sont stables, prédictibles, et que donc pour les enfants c'est très facile d'interagir avec eux.
Alors on va s'arrêter là-dessus, sur ces caractéristiques que vous venez d'énumérer un peu rapidement de votre robot, stable, prédictif, interactif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi ce sont des caractéristiques qui fonctionnent bien avec les enfants atteints de troubles autistiques ?
Alors, la stabilité, c'est très important parce que souvent les enfants autistes souffrent d'anxiété. Quand on change l'environnement, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent dans leur quotidien, ils ont du mal à appréhender tout ça. Et le fait que le robot puisse répéter 200 fois la même chose ou la même action sans jamais se lasser, c'est quelque chose qui le différencie des personnes et qui donc permet de faire un peu de tampon dans les interactions de personne à personne. Si le robot cerveau est au milieu, c'est plus facile. Après, il ne faut pas oublier que les enfants, qu'ils soient autistes ou non, restent des enfants et qu'ils ont envie de jouer et de s'amuser. Et on s'est rendu compte que les enfants apprenaient mieux en s'amusant. Et donc voilà, ce qui se passe avec notre robot, c'est que les enfants ont envie de s'amuser avec, mais c'est qu'un prétexte pour après derrière avoir de l'apprentissage, de la communication, des interactions sociales.
Donc prédictif parce qu'il est très répétitif, voilà. Très prévisible dans ses comportements.
Il est programmé en avance, donc ça, il y a des outils de développement qui permettent à nous, des parents, des éducateurs, n'importe qui, de développer des comportements et des applications pour le robot. Et donc, on sait exactement ce qu'il va faire en fonction de l'interaction de l'enfant. Ouais.
Alors, complétons un peu la description qu'on a un petit peu commencé à faire tout à l'heure dans le sommaire. C'est vrai qu'il a, la forme d'un ballon de handball, votre robot, tout blanc, avec deux gros yeux, une tête, une tête assez sympathique. On le comparait à certains robots qu'on voit dans Star Wars, notamment, mais c'est plutôt Lucas qui a copié le vôtre.
Il semblerait, en tout cas.
Il existait déjà, votre robot, on le sait. Vous pouvez l'allumer, qu'on l'entende. Il fait quel genre de bruit, votre robot?
Alors, pour le moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il couine un peu. Il aura bientôt du son, on est en train d'y travailler. Donc aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est principalement le bruit qu'il fait quand il se déplace.
Alors, laissons-lui la parole, 3 secondes. Voilà. Et on a effectivement, donc ce robot, vous allez pouvoir l'éteindre parce que sinon ça va faire un peu portable qui sonne, mais alors on a effectivement cette sphère blanche qui tourne au sein de sa boule de plexiglas.
C'est ça. On a fait le choix d'avoir autour du robot une sphère qui sera scellée à terme. Là pour le moment on peut l'ouvrir parce qu'on est encore en développement, mais qui sera scellée à terme et qui offrira une solidité sans commune mesure par rapport à des jouets existants. Donc une des caractéristiques principales que notre produit doit avoir, c'est effectivement la solidité, de pouvoir tomber de la table, mais aussi de pouvoir tomber de l'escalier. Et s'il pouvait tomber du deuxième étage et continuer à fonctionner, on aurait vraiment rempli notre mission.
Oui. Alors, il est évolutif, hein, ce robot. Il pourra aussi s'adapter, suivre l'évolution de l'enfant.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut l'imaginer un peu comme un iPad. On aura des applications que les parents pourront télécharger, les parents ou les éducateurs, pourront télécharger et charger sur le robot. Ils auront une interface de paramétrage du robot, ils pourront dire je veux que mon enfant, Mathieu, il joue pendant une demi-heure, 10 minutes, il va jouer à la reconnaissance des couleurs, puis j'apprends à jouer de la musique, et puis enfin il y aura raconte-moi une histoire, où le robot racontera une histoire à l'enfant. Donc ça permet vraiment de contextualiser la manière dont l'enfant va pouvoir interagir avec le robot. Derrière, on pourra donc programmer de nouvelles applications, faire évoluer le robot de cette manière-là, et nous on récupère toutes les données d'interaction, et on est en train de les analyser pour avoir un suivi de l'enfant dans le temps, de son interaction avec le robot de manière générale, et de son progrès dans les différentes applications.
Et alors combien d'enfants ont testé votre robot à ce jour?
Aujourd'hui, c'est 70 enfants dans une dizaine de centres et associations.
Ça s'est passé comment? Il y a des exemples concrets, des images que vous avez en tête de la façon dont ces enfants autistes ont interagi avec le robot que vous avez conçu?
Alors, on a eu quelques cas très intéressants, enfin quelques histoires très intéressantes. Je pense à deux. La première, c'est celle d'Hugo, qui a 17 ans, qui a des gros troubles de la sensorialité, donc qui a du mal à analyser tout ce qui est stimulation sensorielle. Et quand il y a trop d'informations sensorielles, il rentre dans un état de latence. Et donc, avec lui, le robot était programmé pour vibrer de manière régulière. Donc, on peut faire régler l'intensité, la durée, la fréquence des vibrations. Et ça lui permettait de se focaliser sur les vibrations, en fait. Et donc, de bloquer un peu ce qu'il y avait autour et d'apprendre comme ça à processer de manière plus simple toutes les informations sensorielles. La deuxième histoire, elle est encore plus folle. C'était une petite fille et un petit garçon, une petite fille trisomique qui s'appelait Ajar, et un petit garçon autiste qui s'appelle Adrien, qui ont tous les deux 4 ans. Et auquel on a appris à jouer à cache-cache. Donc on prenait le robot, il fallait le secouer, il se met à tourner sur lui-même, il fait du bruit, on le cache et un autre enfant doit aller le chercher en écoutant le bruit qu'il fait. Pour nous c'est très simple de jouer à cache-cache comme ça, mais pour les enfants autistes ou trisomiques c'est complexe parce qu'il y a du tour à tour, faut avoir de la placement dans l'espace, il y a des interactions sociales aussi entre les deux enfants. Et donc au début on commençait à jouer nous contre eux, les deux jouant ensemble, et puis après on a réussi à les faire jouer de manière complètement autonome l'un contre l'autre. Et ça c'était vraiment intéressant et une des marques de l'intérêt que notre robot peut avoir dans l'apprentissage des enfants.
Mmh. Il sera, pour le moment, il n'est pas encore commercialisé, non. Il est encore en test. Vous envisagez de le mettre sur le marché quand? Et puis, pour compléter cette question, Emine pose cette question sur Internet. Un robot pour les enfants autistes, on peut considérer que c'est une avancée, mais à quel coût et qui pourra en bénéficier? Cet argent ne peut-il être utilisé pour d'autres approches non robotisées et humaines?
Alors, sur la première question, quand sera-t-il disponible? On va lancer une campagne de précommande sur le site Indiegogo en avril 2016, qui permettra d'acquérir le robot à un tarif préférentiel, avec une livraison prévue en fin 2016, donc on espère pour Noël, et une commercialisation effective par notre site internet début 2017. Le tarif, le prix aujourd'hui du robot qu'on vise, c'est un peu moins de 700 €, ce qui le rend un peu plus cher qu'un iPad, effectivement, mais en même temps, il peut faire beaucoup plus de choses. La motricité étant le facteur différenciant le plus important dans l'apprentissage des enfants.
Nicolas Caro, vous qui êtes un fin observateur du monde de l'innovation, hein, je vous vois écouter attentivement. Ce petit robot, il aurait pu faire le point de départ de l'une de vos chroniques Futurama dans les Inrock ?
Sans doute, parce que les robots, effectivement, ils sont très très présents dans la science-fiction depuis Asimov. Et ce qui est amusant là avec ce robot, c'est qu'il répond exactement aux caractéristiques qu'avait dicté Asimov à l'époque. Il avait mis au point, donc c'était dans les années 50-60, c'était des nouvelles qui mettaient en scène des robots. Mais pour que tout se passe bien entre les humains et les robots, il y avait trois règles intégrées à l'intérieur du cerveau des robots et qui consistent à dire, première règle, un robot ne doit pas porter atteinte à un humain. Deuxième règle, il doit obéir à un humain. Et troisième règle, il peut se protéger si ça ne rentre pas en concurrence avec les premières règles. Et il y a c'est vrai que à chaque fois qu'un robot arrive sur le marché, il est au service des humains. Pour l'instant. Mais moi, ce que j'imagine ensuite, pour tirer un peu le fil, c'est que les robots, peut-être, pourraient, comme dans Terminator, se retourner contre nous. Alors là, c'est encore autre chose.
Ce qui fait sourire, d'ailleurs, Ladislas, qui n'a pas l'air convaincu que son robot puisse prendre... C'est vrai que tout rond comme ça, on ne l'imagine pas prendre le pouvoir. Mais...
Non. Ce qui est important de noter, c'est qu'il ne vient pas du tout, par rapport à la question qu'on a eue sur Twitter, c'est qu'il ne vient pas du tout remplacer l'éducateur ou le parent. Ouais. C'est un outil ludo-éducatif pour les parents, pour les éducateurs, pour mieux engager les enfants dans l'apprentissage et dans les activités. Il est pas là. Le but, c'est que à terme, on retire le robot. C'est pas que l'enfant passe sa vie avec le robot, mais c'est juste accélérer l'apprentissage. C'est un peu comme quand on apprend à lire. On apprend à lire avec Ratus ou c'est pas ce qui se fait aujourd'hui dans l'éducation nationale. Mais on a des supports dédiés et spécialisés pour les enfants qui ont 6 ans, qui sont en CP et qui ont besoin d'apprendre à lire. On pourrait lire Le Monde. On a les mêmes mots, mais c'est beaucoup moins amusant et beaucoup moins intéressant pour les enfants.
Merci, Ladislas Dottoldi. Vous restez avec nous, vous et votre petit robot Leica. Vous restez pour la suite de l'émission. Dans un instant, on part explorer le futur avec Nicolas Caro pour adresser vos questions à nos invités. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Can't be bothered all concerned with what you say. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easy going for my own good. Allowed you to keep mistreating me the way no true love should. Can't be bothered, don't expect my sympathy. My heart's gone cold, you lost that old time hold on me. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Yeah. Sympathy, for my heart's gone cold. You lost that old time hold on me. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Oh, it's goodbye, baby. I can't be bothered no more. I Can Be Boss Rod, c'était Hugh Coltman sur France Inter dans La Tête au Carré.
Lassage automatique, waouh! C'est pas du tout ma taille. Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers. La casquette, fais voir. Parfait, tu le porterais craché de ton futur fils.
Nous poursuivons notre club des têtes au carré avec Nicolas Caro qui publie chez Vuibert un recueil de ses chroniques Futurama publié dans Les Inrecuptibles. Il est également journaliste chez nos confrères d'Europe 1. Alors le titre de l'ouvrage, L'avenir est pavé de bonnes intentions, 80 inventions géniales et leurs effets indésirables. Le principe de vos chroniques, Nicolas Caro, c'est de partir d'une recherche et de résultats effectivement en cours dans les laboratoires, puis de l'extrapoler ensuite pour imaginer le futur sur lequel ces inventions, ces innovations pourraient déboucher. C'est un peu ça la ligne directrice de votre chronique Futurama.
Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé L'avenir est pavé de bonnes intentions, parce que ça part souvent d'une bonne intention. Les inventions que j'ai pêchées à droite à gauche sont souvent assez extraordinaires et enthousiasmantes. Mais moi, comme je tire le fil et que j'imagine ce que ça donne dans 200, 300 ans quand ça marche réellement, souvent, malheureusement, ça se termine un peu en cauchemar, quoi.
Oui.
Par exemple, il y avait la machine à lire les rêves. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est génial, mais c'est enfin un monde parfait, quoi, avec une machine à lire les rêves, c'est-à-dire pouvoir regarder son rêve en vidéo quand on se réveille, quoi.
Ouais.
Et sauf que si on arrive à faire ça, ce qu'on commence à arriver à faire, ça veut dire aussi qu'on peut lire dans les pensées.
Ouais.
Et dans ce cas-là, c'est terrible, parce que bon, bah voilà, ça, on connaît les débordements, les dérives que ça peut susciter. Mais par contre, ça existe vraiment. Il y a des chercheurs japonais qui analysent les ondes cérébrales des dormeurs, des rêveurs en particulier, et par déduction ensuite, en fonction de l'onde cérébrale qui est émise pendant la durée du rêve, ils arrivent à associer telle forme d'onde à telle image. Et donc, ensuite, ils créent comme ça toute une palette d'images, et ils ont fait des tests avec des rêveurs. Donc, ils ont mis, je sais pas, une image de maison, une image de voiture, et ils montrent ça au rêveur, et le rêveur dit, bah oui, effectivement, j'ai bien rêvé d'une maison, d'une voiture. Mais par contre, on n'arrive pas encore à savoir quelle voiture exactement, quelle maison exactement, ça va être beaucoup plus halluciné dans le rêve du sujet. Mais voilà, ça commence, c'est bricolé pour l'instant. Mais...
Vous dites, on n'y arrive pas encore, mais à chaque fois, il y a cette idée que
presque.
C'est parti, voilà. Et un jour, on y arrivera, avec des allers-retours réguliers entre donc le monde des sciences et puis celui de la science-fiction. On sent aussi que vous êtes un adepte des films de science-fiction.
Bien sûr, bah là, on a fêté, c'était extraordinaire, l'arrivée de Marty McFly le 21 octobre 2015, comme dans le film.
Ouais.
Et donc, effectivement, bon, on en a fait beaucoup, mais moi, j'étais très content. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Et effectivement, par exemple, le hoverboard, typiquement, ça, c'est une œuvre de fiction qui a inspiré les scientifiques. Aucun scientifique se serait dit comme ça, je vais inventer un skateboard sans roues qui vole, quoi. C'est parce qu'ils ont vu le film qu'ils ont voulu l'inventer.
Le film n'a pas seulement inventé le futur, il l'a aussi programmé, influencé d'une certaine manière.
C'est ça, mais il y a ce double processus, en fait. Jules Verne, par exemple, était un fou de revues scientifiques. Il se documentait beaucoup sur la science de son temps, et ensuite, il racontait son histoire. Et par exemple, de la Terre à la Lune, bon, bah alors évidemment, il n'a pas créé le système technique lui-même, mais il a quand même eu l'idée de mettre dans un obus creux, lancé par un canon, trois personnes et qui arrivent sur la Lune, quoi. Et on sait que Armstrong, Aldrin, tout ça, ont lu Jules Verne, et que les scientifiques qui travaillent, j'imagine que les scientifiques qui sont parmi nous sont aussi des fans, ou en tout cas des lecteurs et des amateurs de science-fiction, et qui sont inspirés par ça pour ensuite concevoir, et y compris faire ensuite, ça j'ai remarqué aussi chez les scientifiques, un peu de snobisme sur la science-fiction, en disant oh, arrêtez vos âneries, arrêtez vos fantaisies, etc. Mais sauf que je sais, moi, qu'au fond d'eux, c'est ça ce qui les inspire aussi.
Ah oui, alors je sais pas si vous savez ce qu'ils ont au fond d'eux, mais je confirme que les scientifiques sont toujours assez frileux pour faire de la prospective, pour donner une suite à leur recherche. C'est ce qui est assez plaisant dans votre livre, parce que vous ne vous interdisez rien.
Hein, parce que je suis pas scientifique.
Voilà, vous lâchez la bride et l'imagination. Alors par exemple, il y a toujours donc ces allers-retours, je le disais, avec la science-fiction. Par exemple, le film Minority Report, adapté d'un livre de Philip K. Dick, l'auteur imaginait un service capable de déjouer les crimes avant qu'ils ne soient commis.
Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime.
Je veux dire, voilà.
Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi.
Mais vont le faire.
La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais.
Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal?
Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps.
Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver.
Jamais eu de fausses preuves irréfutables? Quelqu'un a l'intention de tuer son patron ou sa femme, mais il ne le fera jamais. Comment les précoques font-ils la différence?
Les précoques ne voient pas ce que vous avez l'intention de faire, juste ce que vous allez faire.
un extrait de Minority Report. Donc, le roman de Philip K. Dick qui a inspiré ce film a été écrit en 1956. Hein, et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, la police utilise des algorithmes pour identifier les criminels avant leur crime. Ça existe déjà un petit peu.
Presque, voilà, comme toujours, ouais. Effectivement.
Mais racontez quand même, parce que c'est assez étonnant ce que vous
racontez. Dans Minority Report, il y avait un peu de surnaturel là-dedans, c'était des sortes de voyants extra-lucides. Là, c'est assez intéressant d'ailleurs, il récolte en fait toutes les données démographiques, de criminalité, mais aussi voilà, économique, etc. Et ils arrivent à en déduire que dans tel quartier, dans telle rue même, il y aura sans doute un crime qui va se commettre d'ici deux jours, trois jours, une semaine, etc. Et donc, c'est terrible parce que il y a des policiers qui sont allés voir dans certains quartiers à risque, donc ils ont frappé aux portes en disant bon ben voilà, navré de vous l'apprendre, ouais. Mais vous allez peut-être commettre un crime ou à côté de chez vous, pas loin, dans les 100 mètres à la ronde, voilà, donc faites attention, prévenez-nous s'il y a un problème, prévenez-nous si vous allez commettre un crime, voilà, c'est terrible, c'est le procès d'intention littéralement, quoi. Donc si, alors là pour l'instant c'est un gadget, quoi, ça fonctionne pas très bien et heureusement, mais ça c'est assez terrible si on en arrive réellement là, parce que effectivement si le crime n'a pas été commis, il y a pas à le juger, hein, par définition.
Ah bah, ça pose des sérieuses questions éthiques.
Et c'est ce que montre
très
bien Philip K. Dick, c'est que on peut pas juger quelqu'un qui a pas commis un crime. Or dans ce futur imaginé, on est sûr qu'il l'aurait commis, et donc il prend la peine de prison pour un crime qu'il aurait dû faire mais qu'il n'a pas commis, quoi.
Ouais. Alors autre thème très présent dans vos chroniques, c'est l'interaction homme-machine, hein, c'est omniprésent, les ondes cérébrales qui permettent par exemple de guider des objets, de guider aussi des exosquelettes, des sortes d'armures, donc pour des personnes handicapées, grâce uniquement par la pensée, redonner des mouvements à son corps.
Vous avez raison, mais ça c'est extrêmement présent aujourd'hui. Effectivement, donc c'est un peu pareil, c'est un casque EEG qui capte les ondes cérébrales.
EEG, électroencéphalogramme.
Ouais, c'est ça, et qui est capable de les interpréter plus ou moins, enfin de déduire certaines choses. Et par exemple, donc cet exosquelette qui s'appelle le Mindwalker, on le place une armure, voilà, des armatures sur les jambes. Et quand le sujet qui porte cette armure pense droite, la jambe droite qui est donc motorisée bouge. Quand il pense gauche, la jambe gauche, droite, gauche, il peut marcher, quoi. Ouais. Et ça marche aussi pour les avions. Il y a certaines commandes qui peuvent. Alors c'est des prototypes pour l'instant, mais ça fonctionne très bien, qui peuvent être guidés par la pensée, c'est-à-dire qu'il suffit de penser très fort. Il y avait eu un film avec Clint Eastwood où c'était un pilote de chasse justement qui conduisait un avion qui se conduisait par la pensée. Enfin, plutôt, il pouvait tirer les missiles par la pensée. Bon, ce qui était un peu grotesque d'ailleurs, parce que sinon, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est un peu la même chose. Mais quand même, sur le principe, c'est fascinant, quoi. Et aussi, on peut aujourd'hui, il y a des Français d'ailleurs qui travaillent là-dessus, on peut écrire par la pensée. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, la santé fait beaucoup dans l'innovation. La santé et les militaires d'ailleurs, c'est les deux grands, hein, c'est bizarre. Il y a des logiciels qui permettent donc d'analyser ces ondes cérébrales pour écrire un texte sur un écran d'ordinateur. Et donc évidemment, pour les personnes qui ne peuvent pas parler ou s'exprimer ou communiquer, c'est superbe, c'est fascinant, quoi.
Le domaine des transports aussi vous inspire. Alors on va pas faire la tarte à la crème du futur qui est la voiture volante, hein, qu'on prévoyait déjà pour l'an 2000.
Qu'on repousse
éternellement. Un autre projet qui a retenu mon attention dans vos chroniques, c'est le projet de train du milliardaire américain Elon Musk, alors qu'il n'en est pas à ses premières phrases, ses premières réussites. Il a créé PayPal, il a créé SpaceX, il
est Tesla,
la voiture électrique, et il a ce projet dont j'ignorais l'existence, d'un train. Alors racontez à quoi, ultra rapide.
Alors ça s'appelle l'Hyperloop, et c'est un tube en fait dans lequel on met des nacelles, des wagons, appelez ça comme vous voulez, et c'est guidé par un système électromagnétique. Et donc, ça réduit considérablement, évidemment, les frottements. Et ça va extrêmement vite. Et lui, son idée, c'est de relier San Francisco à Los Angeles en une demi-heure. Hein, il y a à peu près, je sais plus, 600 kilomètres, c'est ça. Donc c'est voilà, c'est un projet qui est viable, enfin qui vraiment a convaincu bon nombre de scientifiques, quoi. C'est pas juste l'idée comme ça d'un milliardaire. D'ailleurs, c'est un homme intéressant, Elon Musk. On le compare souvent à Iron Man. Vous savez, c'est ce milliardaire qui est aussi un génie scientifique et qui donc a les moyens financiers et intellectuels pour donner corps meurt à ses rêves, quoi. Et Elon Musk fait beaucoup ça. Il travaille en ce moment sur des batteries révolutionnaires pour les voitures électriques. C'est moins impressionnant que l'Hyperloop. Mais voilà, l'Hyperloop, ça fait aussi partie du décor de science-fiction de base avec la voiture volante.
Ça, en plus, vous décrivez très précisément, vous dites que ce serait pas très cher, hein, le billet, 20 $ l'aller, des départs toutes les 30 secondes dans ces espèces de capsules avec une vingtaine de sièges, air comprimé, la capsule voilà, est envoyée, expulsée, elle va à plus de 1000 km/h, 1200 km/h, et une demi-heure plus tard, elle est 600 km plus loin.
Oui, lui prévoit ça pour dans les 10-15 ans à venir. Il est en train de construire des prototypes au Texas, il me semble. Et ça arrive.
Vous ne manquez pas de rappeler quand même que d'autres projets similaires ont vu le jour, et notamment dans un passé. C'est un peu ces futurs périmés que l'on remet au goût du jour, et on se demande s'ils verront le jour vraiment.
Ben oui, il y avait, vous savez, ce système de courrier qu'on voit ça dans les vieux films. Moi, j'ai pas connu, mais les pneumatiques qui passaient comme ça dans des tubulures. Et c'est assez vieillot. Il y a eu d'autres projets comme ça, même au 19e siècle, où ils avaient l'idée de le faire, mais bon, ils n'avaient pas les moyens scientifiques et techniques à l'époque pour le réaliser. Là, c'est une époque intéressante ce qu'on vit, parce que vraiment, il y a... Bon, vous allez me dire, il y a eu la révolution industrielle. Là, on vit vraiment une période de roman de science-fiction, quoi. Le futur imaginé est rattrapé par le présent, quoi. Toutes les modalités techniques sont là pour faire avancer ces projets fous, quoi. On n'en est plus au stade de l'écrivain qui rêve tout seul dans son coin. Maintenant, on peut réaliser beaucoup, beaucoup de choses.
Et alors, Nicolas Carreau, ce futur que vous vous amusez à imaginer, globalement, il vous inquiète ou il est source d'espoir ?
Et je vais citer Doc Brown, donc de Retour à le futur. Le futur n'est pas écrit, il est ce que vous en ferez, en fait. Effectivement, moi, je m'amuse, c'est parce que c'est toujours plus rigolo quand ça part en vrille, je m'amuse à voir ce que les dérives terribles que ça pourrait engendrer, mais en fait, il y a à chaque innovation, il y a toujours son antidote, quoi. Et puis aussi, il faut pas oublier que, voilà, on est une communauté qui pense et qui n'est pas douée que de science, mais aussi de philosophie et de morale, et donc on a toujours moyen d'arrêter et de guider le progrès.
Vous qui aimez imaginer le futur, vous avez essayé d'imaginer comment les générations futures pourraient recevoir votre livre, peut-être dans 100 ans, des gens qui ne sont pas encore nés aujourd'hui, qui l'ouvriront dans 100 ans, vous pensez qu'il...
Mais moi, c'est ce qui m'amuse, en fait, c'est pour ça que je le fais. J'adore lire des romans de science-fiction vieux, parce que c'est toujours amusant de comparer avec ce qu'on a aujourd'hui. Et là, déjà, moi, c'est des chroniques que j'écris depuis 2 ans, et il y a certaines inventions dont je parlais à l'époque, pour rire, qui sont arrivées, en fait. J'avais fait une chronique il y a 3 ans sur les imprimantes 3D. Bon, c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça prend un tel engouement là-dessus que ça avance très très vite. Et j'imaginais dans la chronique qu'on ferait pas seulement des petits objets, des coques de portable, etc., mais que bientôt on pourrait peut-être imprimer, ouais, soyons fous, des maisons en 3D. Et c'est arrivé en Chine, on commence à imprimer des maisons en 3D.
Merci Nicolas Carreau, votre livre s'intitule « L'avenir est pavé de bonnes intentions, 80 inventions géniales et leurs effets indésirables ». Il est publié chez Vuibert. Dans un instant, la tête au carré lève ses yeux ronds vers le ciel pour en admirer les splendeurs avec Emmanuel Baudouin. Excellent après-midi sur France Inter.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Personal Jesus, c'était Johnny Cash sur France Inter dans La Tête au Carré. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
Une étoile filante, faut faire un vœu.
La Tête au Carré. Le club.
101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vues dans sa vie. Tel est le titre du livre que vous publiez, Emmanuel Baudouin, aux éditions Duno. Vous êtes physicien, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud et vous êtes passionné par les observations astronomiques. Vous photographiez le ciel depuis 30 ans. Hein. C'est vraiment une longue histoire, cette histoire d'observation du ciel. C'est une passion d'enfance qui ne vous a jamais quitté.
Tout à fait, oui. Depuis tout petit, hein, avant l'âge de 10 ans, il y a eu cette attirance inexplicable, cet émerveillement qui fait qu'on tombe dans la marmite et on n'en sort jamais parce que il y a toujours des choses à regarder, il y a toujours à comprendre, il y a toujours un phénomène, un spectacle.
Alors dans votre livre, vous en sélectionnez 101 de ces spectacles, 101 observations du ciel. Elles sont très diverses, étoiles, planètes, galaxies, phénomènes célestes comme le fameux rayon vert. Comment vous avez effectué cette sélection? Parce qu'il y avait l'embarras du choix avec un spectre aussi vaste.
Tout à fait. On a voulu dresser un panorama vraiment le plus représentatif possible de l'extraordinaire richesse du ciel étoilé. Et donc, on a pris trois critères pour qu'un astre ou un phénomène soit une des 101 merveilles. Ça peut être sa beauté, le spectacle qu'il nous offre, donc les anneaux de Saturne, une éclipse, une aurore boréale. Ça peut être ce qu'il nous apprend, donc son intérêt scientifique. Ça peut être son intérêt historique, la première étoile dont on était capable de mesurer la distance, c'est pas forcément sa beauté, mais c'est son intérêt en tant que tel.
Il y avait aussi cette envie que ce soit en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, que ce soit facilement observable. Certains sont observables à l'œil nu, d'autres le sont avec une simple paire de jumelles, pas besoin d'être super équipé pour voir les spectacles dont vous parlez.
Je dirais même la quasi-totalité. Un grand nombre est observable à l'œil nu et la quasi-totalité avec une petite lunette. Effectivement, parce que les astres les plus merveilleux, les plus spectaculaires, les plus insolites doivent être des astres faciles à contempler. Ouais.
Vous donnez d'ailleurs des conseils pratiques pour faire ces observations. Donc soit on regarde les très belles photos que vous publiez dans votre ouvrage, soit on va sur le terrain et on profite du spectacle en direct. Par exemple, on va en picorer dans certains de ces spectacles, Rho de Cassiopée, c'est l'étoile la plus lointaine qui soit quand même visible à l'œil nu.
Oui, alors donc ça c'est le troisième critère, c'est on a sélectionné un certain nombre d'astres insolites, des astres records. Donc là, on a vraiment axé sur cet aspect-là. Et Rho de Cassiopée, c'est une étoile record pas par sa distance absolue, mais par le fait que cette étoile qui est à 12 000 années-lumière de nous soit encore visible à l'œil nu, donc sans télescope. On voit cette étoile, et comme la lumière voyage à une vitesse finie, cette étoile, on la regarde telle qu'elle était il y a 12 000 ans. Mmh. Et comme c'est une étoile qui a la particularité d'être à un stade très avancé de sa vie, c'est une étoile qui a peut-être explosé il y a quelques années, peut-être qu'elle est morte à l'heure où l'on parle en ce moment. Mais ça, on le saura que dans 12 000 ans.
Ouais. Elle est gigantesque, hein, cette étoile, par rapport à notre Soleil, j'entends.
Absolument.
C'est pour ça qu'on la voit, bien qu'elle soit si loin. Parce que la plupart des étoiles qui sont autour de nous, même si elles sont très loin, elles ne sont pas aussi loin que Rho de Cassiopée.
Oui, les étoiles qu'on voit à l'œil nu sont des dizaines, en général, voire des centaines de fois plus près. Rho de Cassiopée, c'est une grosse étoile, c'est surtout une étoile très brillante. Mmh. On pense qu'elle brille à peu près 1 million de fois comme le Soleil. Donc il faudrait 1 million de soleils côte à côte pour équivaloir à une Rho de Cassiopée.
Ouais. Alors comment on peut la regarder? Les conseils, déjà il faut quand même être dans un ciel noir, hein, un ciel sans lune et a priori loin de pollution
voilà,
visuelle.
Donc ces astres un petit peu, cet astre limite hein, à l'œil nu, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à voir dont on parle. Il faut effectivement être dans un ciel relativement sombre à la campagne. Et à partir du W de Cassiopée, qu'on identifie avec une carte, on peut assez facilement partir du W de Cassiopée. Et elle est pas loin, à la pointe du W de Cassiopée, donc elle est relativement facile à localiser.
Autre spectacle que vous conseillez, Andromède. Donc Andromède, c'est la galaxie la plus proche, pour le coup, de la nôtre.
Oui, tout à fait. Alors les galaxies, là, on change d'échelle. Rho de Cassiopée, 12 000 années-lumière, l'étoile la plus lointaine à l'œil nu. La galaxie d'Andromède, 2,5 millions d'années-lumière de distance, et pourtant c'est la galaxie la plus proche. Donc elle remplit pratiquement tous les critères dont on parlait, la beauté, l'intérêt historique, puisque Hubble, au début du XXe siècle, a compris en regardant des étoiles dans cette galaxie que c'est ce qu'on appelait la nébuleuse d'Andromède, c'est pas un objet de la Voie lactée, c'est un objet qui est beaucoup plus loin. Ça a vraiment révolutionné, ça a agrandi notre vision de l'univers d'un coup. Et c'est un objet qui est facile, relativement facile à voir. Par exemple, la plus belle façon de voir la galaxie d'Andromède, c'est pas avec un gros télescope, c'est avec une paire de jumelles. C'est une galaxie qui est grande et qui rentre dans le champ d'une paire de jumelles. Donc à la campagne, à la montagne, avec une paire de jumelles, c'est un objet qui est très très spectaculaire.
Qu'est-ce qu'on voit exactement quand on regarde Andromède avec des jumelles?
Alors on voit un grand disque allongé, on voit son bulbe, son cœur, en fait, la zone la plus concentrée en étoiles qui se loge autour de son centre avec des milliards d'étoiles. On voit un disque plus diffus, qui sont ces bras spiraux qu'on voit un petit peu de profil. Comme on voit de profil, on voit des bandes un petit peu de poussière. Alors là, c'est un petit peu limite aux jumelles, vaut mieux un télescope. On voit des bandes sombres de poussière. Et puis, elle a deux petites galaxies satellites comme nous. Nous avons les deux nuages de Magellan qui tournent autour de notre Voie lactée, la galaxie Andromède. Elle a deux petites galaxies satellites qui tournent autour d'elle et qu'on entrevoit aussi aux jumelles.
Ouais. Autre spectacle, alors plus proche, même si ça met en jeu une étoile, notre Soleil, qui est une étoile parmi d'autres, mais qui compte un peu plus pour nous que les autres, et qui permet de voir ce rayon vert. Déjà, rien que le nom est poétique, mais il y a vraiment ce rayon vert qu'on peut observer. Comment expliquer ce phénomène et comment l'observer?
Alors là, c'est vraiment, pour le coup, on est dans l'aspect scientifique en priorité. Comprendre le phénomène, c'est de l'optique. Hein. Notre atmosphère, c'est une lentille qui a, malheureusement pour les astronomes, beaucoup de défauts. Et l'un d'entre eux, c'est de disperser, on appelle disperser la lumière, donc elle étale les couleurs, et cela d'autant plus que l'astre est proche de l'horizon. Dans une petite lunette, si on regarde Vénus dans une petite lunette, on voit du bleu, du blanc et du rouge, un peu comme le drapeau français. Ça, c'est la dispersion par l'atmosphère. Et quand c'est encore plus bas sur l'horizon, au niveau du coucher du soleil, eh ben on a cette même étalement des couleurs, sauf qu'on a d'autres phénomènes optiques qui se rajoutent, l'absorption par l'atmosphère. L'atmosphère absorbe beaucoup le bleu, moins le vert et peu le rouge. Et du coup, ces deux phénomènes qui se combinent, l'étalement des couleurs et l'absorption du bleu, fait que le dernier petit morceau de soleil, quand l'atmosphère est très pure, apparaît d'un vert intense émeraude.
Mais alors, où est-ce qu'il faut observer ça? Parce que ça paraît super. D'ailleurs, il y a deux photos de ce rayon vert qui sont vraiment très jolies, mais je me suis dit, j'ai jamais vu ça en vrai, j'ai jamais eu la chance de voir le rayon vert.
Alors, il faut un horizon extrêmement dégagé, hein, donc un bord de mer typiquement, ou un sommet de montagne. Il faut pouvoir voir jusqu'à ras l'horizon. Et il faut une atmosphère particulièrement transparente. Donc même si on n'a pas de nuages, il faut sur des dizaines et des dizaines de kilomètres d'horizon marin, rien du tout jusqu'à l'horizon pour que ces rayons nous arrivent pas du tout filtrés. Mmh. Et pas de brume. Donc
il n'y a pas de période particulière. On peut observer ça à n'importe quel moment, n'importe quelle latitude.
Bien sûr.
Alors là où il y a par contre des périodes plus précises, c'est pour les étoiles filantes. Vous parlez des Léonides, notamment. évidemment. Et les Léonides, c'est bientôt, c'est en novembre. Et vous dites, là, vraiment, on peut, selon les années, observer vraiment des tempêtes d'étoiles filantes.
Voilà, alors les Léonides, la prochaine tempête, elle n'est pas pour tout de suite. Par contre, effectivement, tous les ans, lorsque la Terre croise l'orbite d'une ancienne comète, on croise des zones poussiéreuses, en fait. Et donc, toutes ces petites poussières entrent en collision à grande vitesse avec l'atmosphère de la Terre, brûlent dans l'atmosphère et ça fait des étoiles filantes. Et au moment des Léonides, on observe plusieurs étoiles filantes au cours de la nuit, ce qui n'est pas fréquent.
Vous parlez même de... Alors, il y a eu en 1833, ça remonte un peu, mais des tempêtes d'étoiles filantes avec 200 000 étoiles filantes par heure. Ça a dû être un spectacle absolument merveilleux. Bon, alors, il faudra attendre, hein, parce que la prochaine tempête d'étoiles filantes, c'est pour 2032.
Voilà, c'est pas si loin, mais il faut attendre un petit peu.
Il faut attendre encore un petit peu. Merci Emmanuel Baudouin. Votre livre s'intitule « 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu dans sa vie ». C'est paru chez Dunod. Merci à vous. Je remercie également Nicolas Caro et Ladislas de Toldi. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour son émission Affaires Sensibles, avec, comme tous les vendredis, la fiction, thème du jour, Vladimir Nabokov et sa Lolita. Merci à Benjamin de la Gâtinais qui était à la technique aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments des Têtes au Carré de la semaine sur le site de France Inter. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de l'émission. Excellent week-end à toutes et à tous.